ferai de manière à le remporter. Tous ceux qui combattent s'imposent toute espèce d'abstinence et ils le font pour obtenir une couronne corruptible. Mais nous le faisons pour une couronne incorruptible. Moi donc, je cours non pas comme à l'aventure, je frappe non pas comme battant l'air, mais je traite durement mon corps et je le tiens assujetti de peur et d'être moi-même désapprouvé après avoir prêché aux autres. S'il vous plaît, demeurez debout alors que nous prions. Père, nous te louons et te remercions pour ton travail de ta grâce dans la vie de Mary, Zion. Et nous te remercions pour la vie de chacun d'entre nous ce matin. Certains d'entre nous sont en train de te suivre, Jésus. Certains sont ici invités par quelqu'un ou pour un certain intérêt. Alors que nous allons passer à travers certains versets, nous prions que nous soyons gardés par ton esprit et que tu parles à chacun d'entre nous là où il est. Nous nous abandonnons à toi au nom de Jésus. Amen. Vous pouvez vous asseoir, s'il vous plaît. Alors, ce matin, nous continuons notre série les sacrés rites et les droits. Le titre de ce message aujourd'hui, c'est « Course vers la victoire », 1 Corinthiens 9, 24, 27, ce qu'on vient juste de lire. Nous allons, dimanche prochain, le pasteur Wright va venir prêcher ici. Moi, je vais aller là-bas. Il va aller verser la suite de cela. Question, quand fut la dernière fois que tu t'es demandé pourquoi est-ce que je fais ça? Et à quoi pensais-tu lorsque tu t'es posé cette question? La semaine dernière, je suis allé courir sous la pluie et c'était vraiment calme. Je couris environ 3 km, environ 3 km avant de voir un autre jogger. Oui, il y avait quelques propriétaires de chiens grincheux dehors avec leurs chiens en laisse. Allez, mon chien, fais ce que tu as à faire. Je suis là dehors pour toi. Quand ma fille était encore à la maison, nous avons un chien à la maison. Et on avait décidé que c'était l'homme qui devait l'amener le chien pendant la pluie et l'hiver. C'est bien d'être un homme. Lorsque vous traversez la saison automnale, à courir la pluie, puis vous vous entrez dans l'hiver, à courir dans la neige, vous vous demandez sur tous ces jours sombres, froids et humides, pourquoi est-ce que j'ai fait ça? Au printemps, durant le mois de mai, l'expérience est complètement différente. Il fait 20 degrés, ensoleillé, de nouveaux coureurs sortent de nulle part avec des nouvelles chaussures, des courses, de nouveaux t-shirts, de nouveaux shorts. Ils courent en bondissant, en proclamant « Me voici, monde, prêt à courir !» Mais puis début été, le nombre commence à diminuer. Il faut savoir pourquoi tu le fais. À la fin du chapitre 9, Paul se concentre sur son objectif. Il puise dans les métaphores de la course et de la boxe pour étayer son argumentation concernant les viandes sacrifiées aux idoles. Cette conversation qui a commencé au chapitre 8 et qui continuera au chapitre 10. Pour les personnes vivant à Corinthe, les métaphores de la course et de la boxe auraient été très significatives. Corinthe parrainait les Jeux isthmiques qui se tenaient à environ 14 km de la ville. Il y avait de la course, les sauts, le lancer des javelots, les lancers de disques, la boxe, la lutte, la course de chevaux et la course de chars. Un mélange épique des Jeux olympiques et du Calgary Stampede. Tous les deux ans, ces jeux isthmiques étaient un festival extravagant mêlant religion, athlétisme et art, attirant de milliers de visiteurs de tout l'Empire. Il était surpassé en renommée que par les Jeux olympiques se tenant à Olympe en Grèce. Les Jeux isthmiques étaient dédiés au dieu Poséidon, le dieu de la mer, des tremblements des terres et des chevaux. On lui sacrifiait des animaux mâles, des taureaux, des béliers, des étalons. Une fois qu'on lui avait offert un petit avant-goût de l'offrande, les restes étaient pour le peuple. Tous les 2 ans, il y avait ce festival qui avait dans son... de son essence était religieux. Les Jeux étaient un festival religieux, une bonne excuse pour tous les gens de tous les bassins méditerranéens se rassembler pour un barbecue géant, 3 jours de festin, des musiques et des danses. Il est facile de voir comment ces jeux pouvaient s'intégrer dans la conversation sur les viandes offertes aux idoles. Le premier point de Paul est celui-ci: courir pour gagner. Paul s'inspire de l'image de coureurs courant une course dans un stade sur une piste de 400 mètres, comme celle illustrée ici. Mais quelque chose de similaire était aussi en Corinthe. Ne savez-vous pas, verset 24, ne savez-vous pas que ceux qui courent dans le stade courent tous, mais qu'un seul remporte le prix? Courez donc de manière à remporter. Tous les coureurs concourent, mais un seul s'empare du prix, le vainqueur. Il n'y a pas le prix de consolation. Paul ne présente pas la course chrétienne comme une compétition avec d'autres disciples, entre frères et sœurs, ou une seule. Il parle pas d'un seul super disciple qui va gagner. Il utilise ici cette métaphore pour illustrer le besoin de concentration. Vous ne devriez pas simplement déambuler nonchalamment et s'attendre à une sorte de trophée de participation à la fin. Commencer la course ne vous qualifie pas automatiquement comme gagnant. L'exhortation principale de Paul dans ces derniers versets du chapitre 9 est singulière. Courez pour remporter le prix. Les bonnes intentions ne suffisent pas. Comme nous dit, la route de l'échec est pavée des bonnes intentions. Pourquoi alors cette urgence? Plutôt dans le 1 Corinthiens, celui que nous avons lu, 1 Corinthiens 1,4, je rends toujours grâce à mon Dieu, à votre sujet, à cause de la grâce des dieux qui vous a été accordée en Jésus-Christ. Et au verset 8, qui vous affermira aussi jusqu'à la fin pour que vous soyez irréprochables au jour de notre Seigneur Jésus-Christ. Dieu est fidèle, lui qui vous a appelé à la communion de son Fils, Jésus-Christ notre Seigneur. Alors, si Paul est certain que Jésus gardera les Corinthiens forts jusqu'à la fin, pourquoi les Corinthiens ne devaient-ils pas simplement traverser la vie tranquillement, confiant d'obtenir le prix garanti? Après tout, beaucoup de chrétiens ne vivent-ils pas ainsi? Paul ne le fait pas. Et il dit, je ne cours pas comme à l'aventure, je boxe, mais non comme pour battre l'air. Paul ne court pas paresseusement, s'arrêtant et redémarrant, errant sur toute la piste comme quelqu'un qui ne sait pas où est la ligne d'arrivée. Au lycée, notre plus jeune fille était une coureuse de fond. Son entraîneur l'a fortement encouragée à faire aussi la marche athlétique. La marche athlétique est une discipline difficile qui demande de la concentration et de la rigueur. Vous devez toujours garder le pied au sol et un genou verrouillé tout le temps. Ma fille participait à une course de 1500 mètres. Vers la fin de la course, elle était solidement en première place. Le problème était que la ligne d'arrivée n'était pas clairement marquée. Quand elle est arrivée à ce qui semblait être la ligne d'arrivée, elle s'est arrêtée pour être dépassée par quelques autres marcheurs. Elle s'était arrêtée 5 mètres de la vraie ligne d'arrivée. Mon cœur s'est serré pour elle. Elle n'avait pas les yeux fixés sur la bonne ligne d'arrivée. Paul nous exhorte, et aussi aux chrétiens, à garder les yeux fixés sur la ligne d'arrivée. Cela déterminera la façon dont nous courons dès que nous... Cela définira. Et dès que nous regardons sur le côté ou derrière nous, nous perdons la vitesse et nous risquons de tomber. La ligne d'arrivée concentre notre attention et nous permet de persévérer. Si nous n'avons pas les yeux sur la ligne d'arrivée, nous courons cette course pendant une semaine ou un mois, puis nous nous égarons, attirés par la prochaine aventure excitante. En tant qu'homme Willingdon, si vous ne le savez pas, nous vous encourageons à nous... nous, nous, nous Nous avons des études basées sur ce même titre, courir pour gagner et le pasteur Vin va continuer à enseigner. Si vous n'êtes pas encore, vous êtes invité. Paul est singulièrement déterminé. Ailleurs, dans Philippiens 3, 13, 14, Paul écrit: Mais je le fais une chose, je fais une chose, oubliant ce qui est derrière moi, mais portant vers ce qui est devant moi, et je cours vers le but pour remporter le prix de l'appel céleste de Dieu en Jésus-Christ. Paul imagine un coureur qui vient de tourner le virage et court maintenant dans la dernière ligne droite où il peut voir la ligne d'arrivée et le but. En ayant les yeux fixés sur la ligne d'arrivée, il court penché en avant, la main tendue vers la ligne d'arrivée. Au verset 26, Paul change la métaphore. Je ne boxe pas comme si je frappais dans le vide. Il n'est pas un coureur qui court sans but. Il n'est pas non plus comme un boxeur non entraîné qui frappe sauvagement sans jamais atteindre ses cibles. Il ne donne pas des coups dans le vide. Il combat pour remporter le prix. Quel est le prix? Cela nous amène à son deuxième point. Courez pour la couronne impérissable. Aux Jeux isthmiques, le vainqueur de la course recevait la couronne périssable faite de pain et de céleri fané. Une couronne de céleri fané ne serait pas une motivation énorme pour la plupart d'entre nous. Le vainqueur était aussi courait aussi pour la gloire et l'argent, avec son nom inscrit sur le monument et des statues. Mais cette gloire aussi s'estomper assez vite, presque aussi vite que le céleri. Avez-vous remarqué à quelle vitesse nous oublions nos héros sportifs aujourd'hui? La vitesse à laquelle nous oublions qui a gagné les courses aux derniers Jeux olympiques, qui a gagné même la dernière course Stanley, la Coupe Stanley. La rapide, on se souvient de ceux qui ont la rapidité avec laquelle nous oublions nos victoires académiques et professionnelles. Si vite, elles deviennent éphémères. Paul écrit au verset 25: Tous les athlètes s'imposent toutes sortes d'abstinences. Ils les font pour obtenir une couronne périssable, mais nous, pour une couronne impérissable. Alors, Paul oppose l'honneur momentané donné au vainqueur des compétitions athlétiques à la couronne éternelle et impérissable qui sera remise à chaque disciple de Jésus-Christ qui court la course, engagé dans le but que Dieu lui a donné, les yeux fixés sur Jésus, courant pour une récompense céleste. Cet été passé, j'ai fait un jogging à New Westminster. J'ai couru à travers quelques parcs que je fais souvent. Je suis arrivé près du fleuve Fraser et couru le long de la jetée jusqu'au bout. Et je me suis retourné pour rentrer vers la maison. Le seul problème, c'est que sur le dernier kilomètre que je monte une colline, une longue montée de long de 3e avenue du fleuve Fraser jusqu'à notre immeuble sur le 6e avenue, c'est un dernier effort difficile pour moi. Honnêtement, si je ne cours pas très vite, si vous accélérez le film, vous remarquerez que je suis en train de bouger. Le jour dont je parle, il faisait vraiment chaud, à environ 30 degrés. C'était un de ces jours où je ne me sentais pas très bien. Alors que j'ai lutté pour monter la colline, j'ai commencé à respirer plus lourdement, transpirant plus abondamment. Mon corps était douloureux et je me suis posé la question: pourquoi est-ce que je fais ça? Il fait vraiment chaud, je suis vraiment fatigué. Personne ne me regarde, même pas ma femme. Et aucun prix ne m'attend, aucune récompense. Je ne suis pas obligé de faire ça. Je suis sûr que les anges me regardent et disent: Qu'est-ce qui ne va pas avec lui? Pourquoi souffre-t-il montant cette colline? Qui lui a dit de faire ça? Alors je me suis arrêté, juste au milieu. Paul dit qu'il a le regard fixé sur la couronne impérissable. Il court vers la maison. C'est son prix. Qu'est-ce qui est inclus dans cette récompense céleste? Avant tout, être avec Jésus, être avec lui, c'est un grand prix, c'est le grand prix. Mais aussi, pour Paul et pour chacun d'entre nous, la résurrection corporelle et la transformation complète à la ressemblance de Jésus. et être avec la famille des dieux, comme nous avons chanté plus tôt, toutes les nations, toutes les tribus et toutes les langues. Et aussi la récompense qu'il recevra pour avoir fidèlement proclamé l'évangile de Jésus. Paul ne s'agonise pas pour le prix de la vie éternelle. Il n'essaie pas de mériter le salut, mais il vit pour avoir le plus de personnes possibles de tous les coins de la société venir à la foi en Jésus. Les religieux, les non-religieux, les gens de toutes les nations, toutes les langues, toutes les ethnies. C'est pour cela que Paul est en train de courir. Le point principal de Paul est celui-ci. Si les athlètes se disciplinent avec un entraînement rigoureux pour gagner une couronne qui se fanera rapidement, à combien plus forte raison, nous, disciples de Jésus, devrions-nous courir pour gagner une couronne impérissable? Voyez-vous, le langage théologique, notre eschatologie détermine notre éthique quotidienne. Ce que nous croyons à propos de l'avenir détermine ce que nous faisons aujourd'hui. Quelques semaines après cette course, où j'ai abandonné à mi-chemin de la colline, je suis un peu gêné, mais je l'avais fait. Je suis parti pour un autre jogging. J'ai suivi essentiellement le même parcours, Queen Park, Glenbrook, Ravine Park, et à travers le centre-ville, le long de la jetée, puis vers le haut de la colline. Même distance vers la maison. Cette même distance, même colline. Mais cette fois, mes yeux étaient fixés sur notre condo au sommet de la colline. Cette fois, j'avais un état d'esprit différent. J'étais concentré, j'étais déterminé à rentrer à la maison. Je n'ai même pas envisagé de m'arrêter parce que j'avais une récompense qui m'attendait dans le frigo. Et j'ai réussi, j'ai eu le prix. Alors, courons-nous pour gagner la couronne impérissable? Avons-nous notre regard fixé sur la ligne d'arrivée? C'est intéressant de voir comment le focus des gens change quand les gens se rendent compte qu'ils ont une maladie en dernier. Et les gens deviennent plus concentrés en Jésus. Ils veulent passer plus de temps avec les gens qu'ils aiment. Maladie terminale, je voulais dire. Et ils arrangent tout avec Jésus. Tout ce que vous pouvez considérer comme ayant de la valeur, son identité construite, son salut, ses réalisations et ses biens, pour lesquels il a travaillé si dur à acquérir, n'ont plus de grande valeur. Ces choses passent à l'arrière-plan et elles se concentrent sur ce qui a une valeur éternelle. Son but et sa récompense éternelle. Concentrer sur les gens autour de toi, la famille et... Est-ce que courons-nous pour gagner la couronne impérissable? Ce qui nous amène au troisième point. Cela nous amène au troisième point. Et si nous courons pour gagner la couronne impérissable, nous allons courir avec une rigueur. La maîtrise de soi fait référence à la domination de soi. Tout athlète qui lutte pour gagner exerce la maîtrise de soi dans toutes les sphères de la vie, de sa vie, qui pourrait affecter l'issue de la course. Il met de côté tout vice, habitude, appétit et activité qui pourraient l'empêcher d'exceller. Paul écrit dans le verset 25, tous les athlètes s'imposent toutes sortes d'abstinence. Alors, c'était une métaphore extrêmement puissante pour les chrétiens qui avaient été dominés par leur désir charnel pour le statut, la nourriture, les appétits qui peuvent si facilement apporter la défaite. Épictète, un philosophe grec qui vivait dans la seconde moitié du premier siècle, pendant que Paul dit à ceux qui veulent gagner une compétition athlétique, il faut que tu te soumettes à la discipline, suivre un régime strict, renonce aux pâtisseries, entraîne-toi sous contrainte à des heures fixes dans la chaleur ou dans le froid, tu ne dois pas boire de l'eau froide ni de vin, juste quand tu en as envie. Alors aujourd'hui, on dirait pas des gâteaux de lune. plus de tarte de citrouille, pas de bubble tea, pas de boisson gazeuse. Le point ici, c'est gagner exige le renforcement. Un entraînement dur pour renforcer son corps et son esprit. Les athlètes participant aux Jeux prêtaient un serment olympique. Pendant 10 mois consécutifs, j'ai strictement suivi les règlements de l'entraînement. On ne voulait pas que les gens viennent courir sans avoir été préparés. La maîtrise de soi, la domination de ses appétits et de ses passions est le fruit de l'esprit. En d'autres termes, si l'esprit des dieux est présent pour renforcer notre autodiscipline, nous devons compter sur. Dans le cas des Corinthiens, la maîtrise de soi impliquerait de renoncer à des choses comme la promiscuité sexuelle, le snobisme social et l'idolâtrie. Et nous faisons face aux mêmes tentations. Devrions-nous être découragés? Devrions-nous être au chapitre... Et au chapitre suivant, Paul écrit, aucune tentation ne vous est parvenue qui n'ait été humaine. Dieu est fidèle et il ne permettra pas que vous soyez tentés au-delà de vos forces. Mais avec la tentation, il préparera aussi le moyen d'en sortir afin que vous puissiez la supporter. Dieu est présent pour nous aider. Alors que nous faisons face à la tentation, quoi qu'il en soit. Souvenez-vous, Paul ne parle pas des niveaux extraordinaires de maîtrise de soi pour mériter le salut, de gagner le pardon ou l'espérance de la vie éternelle. Paul ne parle pas de ça. Paul parle de la discipline nécessaire pour bien courir la course du disciple chrétien. Il parle de ce que nous lisons dans Hébreux 1, 1 à 3, verset 1. C'est pourquoi, puisque nous sommes environnés d'une si grande nuée de témoins, rejetons tout fardeau et péché qui nous enveloppe si facilement et courons avec persévérance la course qui nous est proposée, les regards fixés sur Jésus. Paul est en train de dire ici aux Corinthiens, débarrassez-vous de vos chamailleries, de vos incursions dans la vie sensuelle, mettez de côté votre snobisme social et votre idolâtrie. Je vous demande pas d'être seulement discret dans ce que vous faites. Abstenez-vous de repas dans les temples de joie, dans les temples des idoles. Paul continue, il dit, mais je traite durement mon corps et je le tiens assujetti de peur d'être moi-même disqualifié après avoir proclamé l'évangile aux autres. Contrairement aux boxeurs qui frappent dans le vide et aux coureurs sans but, Paul traite durement son corps. Paul dit, je le tiens assujetti. Une traduction littérale serait, je réduis mon corps à l'esclavage dans notre monde de confort et de sécurité semble sembler si étrange. Que dit-il? Et Paul n'est pas discipliné pour le disciple elle-même. Il est en train de dire que je assujettis mon corps pour courir, pour gagner cette couronne impérissable, pour avoir ce que Dieu a pour lui. Voyez-vous, il ne veut pas s'arrêter au milieu de la course. Et tout à l'heure, j'ai utilisé l'exemple de ma fille qui courait. La course apporte des douleurs sur tes articulations, tes talons. Et c'est si facile de chercher ou Et alors que vous le faites. Quand vous faites la marche, il y a des juges qui vous regardent. Si vous manquez à la règle, vous êtes disqualifié. Et Paul dit, je me discipline afin que je ne sois pas qu'il ne m'arrive pas que je sois disqualifié. Le mot disqualifié signifie non approuvé, montré comme étant contrefait ou ne passant pas l'épreuve. Il est utilisé pour les métaux et les pièces de monnaie qui étaient rejetées parce qu'ils ne passaient pas l'épreuve. Est-il possible que Paul soit comme une de ces pièces? Paul suggère-t-il sa conversion, son baptême, son appel à l'apostolat au ministère de l'Évangile ne garantissent pas son salut éternel? Est-ce qu'il travaille maintenant sans relâche pour être approuvé? Non, c'est pas ça. Paul ne discourt pas sur le salut éternel ici. Il donne une exhortation morale aux disciples de Jésus. Il craint que les Corinthiens ne trébuchent, ne quittent pas la piste, ne soient ramenés vers le péché et ne manquent de recevoir leur récompense céleste. Dans 1 Corinthiens 1, on a lu à propos de cette tension. Le verset que nous avons lu, Paul maintient une tension entre l'assurance et l'avertissement. Ailleurs, il écrit, je suis persuadé que celui qui a commencé en vous cette bonne œuvre la mènera à son terme jusqu'au jour de Jésus-Christ. Dieu achèvera son œuvre de salut en vous, en nous. Mais méfiez-vous des pièges spirituels qui sont la recherche du statut, la sensualité, l'idolâtrie. Faites attention. Jésus veut que nous puissions recevoir notre récompense céleste. La vie de Paul était loin d'être facile. Dans son ministère, il a fait face à des vents contraires significatifs. 1 Corinthiens 4, il dit jusqu'à 7 heures, nous souffrons de faim, de soif, de nudité, nous sommes maltraités, errants, ça et là, et nous nous fatiguons à travailler de nos propres mains. Insultés, nous bénissons, persécutés, nous supportons, calomniés, nous parlons avec bonté. Nous sommes devenus comme les balayures du monde, les rebuts de tout jusqu'à maintenant. Paul endure les épreuves physiques et émotionnelles, renonce au confort et à la facilité, à l'abondance et aux petits plaisirs pour rester fidèle au but suprême de sa vie. L'avancement de l'Évangile, quel qu'en soit le prix, il ne veut pas être disqualifié. Il ne veut pas non plus que ses frères et sœurs à Corinthe soient disqualifiés. Courir en hiver n'est pas facile. Ça demande de la discipline. Vous affrontez les éléments, les pluies torrentielles de novembre, ça tombe sur vous, la neige en janvier, le froid, le vent. Mais c'est précisément dans ces moments où vous affrontez les éléments que vous vivez certains de vos moments les plus sublimes. Des moments où vous entrez dans la joie de la course, quand vous expérimentez plus pleinement ces récompenses. Et c'est de manière similaire. Courir la course, le disciple de Jésus peut être difficile. Il y a des moments où vous affrontez les pluies de la déception, les rebuffades de ceux qui vous opposent, contre les vents contraires culturels d'une société organisée en opposition à Dieu. Cela va arriver, mais c'est dans ces moments de souffrance que vous avez l'occasion de voir la gloire radieuse de Dieu, d'expérimenter sa grâce au-delà de toute mesure, de comprendre qui vous avez été créé pour être et de voir avec plus de clarté la raison de votre existence, votre but. Vous courez pour le royaume qui va... J'étais en train de courir, il faisait beau, il y avait le soleil qui brillait, vous pouvez voir la beauté des arbres, toutes les couleurs, vous voyez cette beauté. Alors que je courais, je pensais à cela, courir vers la. Et nous aurions de moments glorieux pour entrer dans l'endroit où Dieu a préparé pour nous, le ciel. Courant pour vaincre. Si vous êtes disciple de Jésus, souvenez-vous que vous êtes connu de Dieu. Et cela signifie que vous appartenez à Dieu pour toujours. Souvenez-vous que ce que Jésus a fait pour vous. Et souvenez-vous qu'il a donné sa vie pour que sa justice vous soit créditée. Souvenez-vous, il a donné sa vie, il a couru jusqu'à la fin pour que vous soyez purifiés de tout votre péché, pardonnés, péché actuel, passé et futur. Souvenez-vous qu'il a couru jusqu'à la fin pour que vous soyez réconciliés avec Dieu. Et souvenez-vous qu'il a couru alors jusqu'à la fin, pour que vous puissiez avoir une nouvelle identité par votre union avec lui. Vous êtes maintenant enfant de Dieu, fille de Dieu. Et puisque vous appartenez à Dieu, êtes connu de lui, vous appartenez à sa famille. Et avec votre nouvelle identité et votre appartenance vient le but éternel, aimer Dieu, aimer les autres, comme Christ t'a aimé, vivre l'aventure éternelle pour laquelle Dieu vous a créé. Hélène Keller, elle était née en bonne santé à 19 ans. Elle est tombée malade et elle est restée aveugle et est sourde pour la vie. Et elle avait probablement des gens qui prenaient soin d'elle, qui l'inspiraient. Elle était la première femme aveugle et sourde qui avait fini l'université à Harvard. Et elle a écrit ceci: La vie est une aventure audacieuse où ce n'est rien. Elle était disciple de Jésus. Elle avait les yeux fixés sur la ligne d'arrivée. La vie est une aventure audacieuse où ce n'est rien. Jésus nous a donné un don d'une aventure audacieuse, courant avec discipline et vigueur pour la gloire qui est devant nous. Alors que nous approchons la table du Seigneur, adorons Jésus, considérons la semaine passée. Comment avons-nous couru? Nos paroles étaient-elles empreintes de l'amour de Jésus? Alors que nous parlions avec les membres de la famille, des collègues, alors que nous avions des conversations avec nos collègues au travail et dans le quartier. Quand nous avons été blessés, avons-nous saigné l'Évangile? Avons-nous parlé et agi par la surabondance de l'amour de Dieu pour nous? Avons-nous couru avec une rigueur disciplinée, les yeux fixés sur le prix, la couronne impérissable? Y a-t-il quelque chose que nous devons changer, de rester concentrés sur la ligne d'arrivée? Jésus désire ardemment que nous recevions notre récompense céleste. La table, est faite pour ceux qui ont suivi Jésus, qui ont décidé de suivre Jésus, comme Mary, Wendy et Zion ont fait, qui ont été baptisés plus tôt. Peut-être que vous n'avez pas encore pris cette décision. Il y a un proverbe chinois qui dit ceci: Le meilleur moment pour planter un arbre était il y a 20 ans. Le deuxième meilleur moment, le premier meilleur temps, c'était il y a 20 ans. Le deuxième meilleur moment, c'est maintenant. Si vous n'êtes pas encore entré dans la course, c'est maintenant qu'il faut le faire. Jésus a donné sa vie pour vous. Dis seulement que je viens me sauver, viens me pardonner, viens me donner une nouvelle vie. Pour tes péchés, réponds-toi. Demande à Jésus d'être ton leader, qu'il te guide pendant que tu fais la course. Soumets ta vie à Jésus. On va prendre un moment de réflexion silencieuse pour ceux d'entre nous qui croient en Jésus. C'est aussi un moment pour ceux qui n'ont pas encore donné leur vie à Jésus, prenons un moment de silencieux de réflexion, de confesser les péchés, de renouveler notre engagement.